la première partie de la grande table. Bonjour à tous. Faux débat ou retour critique avec le philosophe François Julien ce midi, auteur de « Il n'y a pas d'identité culturelle », un court essai paru aux éditions de Lerne. Pourquoi nous sentons-nous menacés et pourquoi le débat actuel sur l'identité culturelle est-il une impasse? Deux questions fil rouge pour un entretien à écouter à partir de 12h55 dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, magique rencontre non sous-titrée avec Viggo Mortensen à l'affiche aujourd'hui de Captain Fantastique. Viggo Mortensen, un acteur éclectique, citoyen critique, il se montre attachant dans ce film écologique qui questionne l'American Way of Life. De passage à Paris, il est notre invité dans la première partie de la Grande Table. Grande Table qui se tweet, se like et se télécharge sur les réseaux sociaux et qui s'écoute sur France Culture ou sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
On a créé une chose probablement unique dans toute l'histoire de l'humanité.
On court jusqu'en haut.
On a créé un paradis sur Terre.
C'est incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. Les enfants sont merveilleux.
Elle me manque, maman.
Il faut que maman reste à l'hôpital pour l'instant. Comment elle va? On est une famille.
Tout est de ta faute.
Leslie était malade.
Je ne sais pas où tu es, mais reste-y. Si je te vois, j'appelle la police.
Ils veulent pas de nous à l'enterrement. On doit obéir.
On veut voir notre maman.
Grand-père nous opprime, il n'a pas le droit.
Cette fois-ci, c'est votre baptême du feu. Mettez votre entraînement à profit.
Ils ont des hot dogs.
C'est quoi? Du cola?
Du poison en bouteille.
Lui, c'est Viggo. Et oui, on va pas vous dire le contraire. Viggo, il est beau. Mais au-delà de ça, l'acteur fétiche de David Cronenberg avec A History of Violence ou Dangerous Method et Les Promesses de l'Ombre est un homme qui aime lire le monde dans les livres et le traverser sans jamais ne le figer ni s'arrêter. Au cinéma, il a aussi pris la route de John Hillcoat et couru dans The Indian Runner de Sean Penn avant d'envahir les écrans, le cheveu long et capé dans la peau d'Aragorn, héros de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, à l'affiche de Captain Fantastic, du réalisateur Matt Ross, le comédien américano-danois est Ben, père de famille, hippie et altermondialiste, grand lecteur de Noam Chomsky et de Jared Diamond, qui élève ses enfants en pleine nature, isolé de tout, coupé surtout de la société de consommation. Dans le film, il assure qu'il faut toujours dire la vérité aux enfants, la vérité, toute la vérité, rien qu'elle, s'il vous plaît. Viggo Mortensen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à New York, vous y avez vécu, vous avez ensuite habité au Venezuela, en Argentine, grandi au Danemark, vous vivez aujourd'hui entre l'Espagne et les États-Unis. Mm-hmm. Vous le dites d'ailleurs, je suis un étrange mélange du Nord très méthodique et du Sud plus chaotique. Mm-hmm. Pour quel résultat?
Bon, j'aime dîner à 22h, mais j'aime aussi la solitude et la tranquillité. Je sais pas. Pour plein de raisons.
Et où est-ce que vous vous sentez le plus chez vous aujourd'hui?
À vrai dire, partout. Je crois que c'est une bonne idée de se trouver chez soi, partout. C'est l'idée la plus humaniste que je connais.
Même si partout, ça veut dire un peu nulle part aussi, non?
Ouais, c'est le problème. On se sent un peu hors de soi, sans terre, de temps en temps, mais ça va. C'est normal pour les personnes, quand même. Même si on habite au même lieu toute la vie, il y a des moments fragiles, des moments de doute, de peur. C'est normal. Pour les animaux, pour les êtres humains aussi.
Vous avez des moments de doute?
Oui, tout le temps.
Qu'est-ce qui vous fait douter?
Bon, mon métier... La politique, la manque de communication au monde, l'hypocrisie, tous les problèmes qu'on peut trouver. Il y a une longue liste de choses qui peut te troubler.
Ben, le héros que vous incarnez dans ce film, a choisi de vivre retiré avec sa femme et ses 6 enfants dans la forêt. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une vue plongeante de ce nord-ouest américain, éloigné de tout, éloigné surtout cette famille, de la société de consommation qu'il dénonce quelque part. C'est d'ailleurs la première chose qu'il apprend à ses enfants et qu'on apprend assez peu dans les écoles aux États-Unis, mais pas plus en France qu'ailleurs, c'est à remettre en question tout ce qu'on apprend, à savoir discuter, prendre du recul sur, sur ce qu'on reçoit.
Mais c'est pas question des matières, c'est question de penser par eux-mêmes. C'est l'apprentissage de mes 6 enfants dans le film. C'est surtout d'être capable de former et défendre ses propres idées, ses propres opinions. Il y a un enseignement physique aussi. Ils sont en très bonne forme physique, tous les enfants. Mais l'apprentissage intellectuel, si on peut le dire, c'est largement théorique. Et le film est aussi un film de voyage, un road trip. Et quand ce road trip commence, l'apprentissage théorique se termine. Parce que les enfants sont exposés aux autres influences, aux autres opinions, aux autres enfants, aux autres familles, aux autres modèles sociaux. Et puis, le père perd un peu le contrôle de la situation, et c'est difficile pour lui aussi, parce qu'il se rend compte peu à peu qu'il n'est pas sur le bon chemin tout le temps. Que l'idée d'isoler ses enfants, d'être si strict, c'est un problème pour eux.
Mais ils veulent
socialement. Et même si au début, on voit que c'est un homme qui est complètement opposé à la rigidité, à l'intolérance, il devient intolérant, rigide. On peut dire qu'il est arrogant de temps en temps, qu'il est un peu une espèce de dictateur bienveillant. Et c'est ça qu'il se rend compte de ça. À la fin, le film, comme lui, c'est un film qui est provocant, émouvant, aussi ludique, mais à la fin, modeste, sincère. C'est ça que je crois.
Vous dites que tout cet enseignement théorique au moment du voyage, du road trip qui vise à aller avec les enfants à l'enterrement de la mère et du coup d'être confronté à toute une belle famille qui, elle, vit de manière beaucoup plus conventionnelle, plus classique. Vous dites que cet enseignement théorique, quelque part, s'effondre. Mais il s'effondre parce que quoi? Parce qu'il y a confrontation avec le réel?
Bon, c'est le voyage, c'est l'occasion d'une remise en question de... des idéaux de l'enseignement du père.
Justement, est-ce que ça veut dire que quelque part le réel gagne toujours sur les idéaux?
Non, à la fin, le film et le personnage du père montrent la capacité d'être flexible. Ça veut dire d'avancer, de grandir grâce à la capacité de se transformer, d'accepter qu'on n'est pas sur le bon chemin, de ne cesser jamais à la fin de se transformer. On voit ça dans le film, on voit ça dans le personnage. Et aussi avec la plupart des enfants, je crois qu'on voit ça. Et le grand-père. Une autre chose que j'aime beaucoup avec ce film, ce n'est pas un film des héros, des anti-héros. C'est une histoire complexe. Il y a 2 hommes, disons le père rebelle et le grand-père conservateur, qui s'opposent. Mais leurs 2 points de vue se défendent dans ce film, à mon avis.
Ils veulent pas de nous à l'enterrement. On doit obéir, on n'a pas le choix. Il y a certains combats qu'on ne peut pas gagner. Les plus puissants ont toujours contrôlé les plus faibles. C'est la vie, on n'y peut rien. C'est pas juste, c'est pas équitable. Mais c'est comme ça que ça marche. On doit la fermer et l'accepter.
Si on reparle des autres films aussi dans lesquels vous avez joué, vous repassiez par L'état de nature ou presque dans La route, et là, par La nature tout court dans Captain Fantastic. Mmh. Et à travers ces rôles, il y avait l'idée aussi, à travers ces films, d'offrir un autre visage à la civilisation. Est-ce que pour vous, Captain Fantastic, ça reste une fable politique ?
Non, je suis pas fan même des documentaires qui sont des films de message ou des films clairement idéologiques. Et je pense pas que Captain Fantastic est un film idéologique, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à la société occidentale, pas seulement la société des États-Unis, mais la société, disons, consommatrice, capitaliste de l'Occident. Pendant le tournage, on a beaucoup parlé de ça, moi et Matt, que c'est pas un film qui parle de ça directement, mais on pense, c'est clair.
Il y a beaucoup de références dans ce film, c'est truffé de clins d'œil à des monstres de la littérature ou de la recherche aujourd'hui. La famille et vous, le père en tête, hein, vous suivez les préceptes d'un pédagogue, Tom Brown, vous vénérez le biologiste Jared Diamond. Je pense qu'il doit y avoir quelque part du Howard Zinn dans les étagères du minibus.
Oui, on avait ses livres aussi.
Vous les avez amenés ? Mm-hmm. C'était vous qui avez nourri la bibliothèque du Howard Zinn ?
Oui, un peu.
Un peu ? Vous avez mis quoi d'autre dedans ? J'ai peut-être pas eu le temps de tout voir. Quels sont vos fondamentaux à vous ? Les livres que vous avez apportés, auxquels vous teniez ?
Des caisses de livres. Non, j'ai la liste du réalisateur. Il m'a envoyé des livres aussi. Et j'ai parlé, je lui ai dit, moi, j'ai lu la plupart. Mais on peut y parler. Et les enfants aussi, ils ont lu des livres. Et puis j'ai vu qu'il y avait certains poètes des États-Unis, de la Canada, d'Angleterre. Et puis j'ai dit, bon, je peux apporter des autres choses. On voit que la famille parle 6 ou 7 langues. Et j'ai apporté beaucoup des poètes en espagnol, en français, en allemand, danois, suédois, norvégien, quelques livres en arabe, plein de choses. Ben, la base, c'était la liste de Matt Ross, et puis j'ai ajouté des choses, mais sans savoir s'ils allaient l'utiliser. C'est plutôt au début pour moi. Je l'avais fait comme je fais toujours. Certaines choses pour me préparer, pour me mettre dans le rôle un peu, dans l'histoire, pour jouer. Parce que ça me fait content faire ça. Et bon, je suis arrivé avec des livres et des autres choses. J'ai dit, bon, si vous voulez utiliser, ça me va. Et sinon, ça me va aussi. Je peux les utiliser moi-même. Et à la fin, il a dit oui, presque tout, oui. Et puis dans le bus et dans le tipi, on voit beaucoup de livres, beaucoup de livres que j'ai déjà apportés, oui.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Le héros du film, Viggo Mortensen, c'est pas vous en fait, c'est vraiment Noam Chomsky, et l'auteur de Le Linguiste, le philosophe, l'auteur de La fabrication du consentement.
Non, c'est Noam Chomsky et le personnage de la mère, qu'on voit
peu,
mais c'est la raison pour le voyage, c'est la raison pour l'histoire, disons, la mère.
Mère qui est plus ambiguë aussi qu'il n'y paraît, c'est ce qu'on comprend au fil du film. Et je voulais vous poser une question sur Noam Chomsky, Viggo Mortensen. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui aux États-Unis, dans l'Amérique d'aujourd'hui ? Qui a lu encore Noam Chomsky ? Qu'est-ce que sa voix pèse dans les débats publics ?
Bon, il ose nommer les choses, comme Camus en France, même si jusqu'à aujourd'hui, une partie de minoritaire de la gauche, peut-être pas si minoritaire, de la gauche française, de ceux qu'on appelle des académiciens, le monde académique, dans la littérature, aussi le cinéma. J'ai vu ça quand on a essayé de lancer Loin des hommes. Même que, comme Camus, en France, Chomsky, maintenant, c'est quelqu'un qui ose à nommer les choses, qui ose désigner ceux qui sont coupables, quand on parle de la violence, de l'intolérance. Et le problème aux États-Unis, il y a des gens qui aiment Chomsky, qui ne sont pas toujours d'accord avec lui, mais qui laissent parler Chomsky, qui ont lu Chomsky. Le problème, c'est que les médias aux États-Unis, on ne voit jamais des articles de Chomsky dans le New York Times, par exemple. Il y a une espèce de censure, parce qu'il a écrit tous les jours, depuis 60 ans... 70 ans, on doit le trouver dans ses livres, ou les blogs et tout ça. C'est un problème.
Pour en revenir au film Viggo Mortensen, il y a quand même deux choses aussi qui sont intéressantes. Dans Indian Runner, dans lequel vous avez joué, un film de Sean Penn, un des premiers films qui vous a fait connaître, dans Sur la route de Walter Salles, vous exploriez déjà ce qu'on appelle les marges. Là encore, à travers le choix d'un mode de vie alternatif, celui du personnage que vous incarnez, se profile quand même une question, c'est quel sens donner à sa vie et aussi une certaine idée du bonheur, c'est-à-dire que le bonheur ne se résume peut-être pas à l'image d'Épinal qu'on en a, à ce mode de vie ou assez matérialiste, où on peut tout avoir, avoir ce qu'on veut, avoir tout à portée de main. Est-ce que vous avez réussi à vous faire une définition du bonheur?
Rester ouvert, faire attention, rester flexible, c'est le bonheur. Tout l'autre, c'est des distractions, c'est la mort intellectuelle et après physique. Le reste, ça veut pas dire que on peut pas avoir la télévision, qu'on peut pas être tranquille, jouer, faire des choses, mais vivre d'une façon consciente, faire attention au monde, aux autres, aux amis, écouter surtout. Avec toutes les distractions, c'est difficile d'écouter, de sentir. C'est le problème. Les distractions sont là, dans certains cas, parce que ça sert les gens qui veulent pas que les gens pensent, que les gens s'écoutent, se communiquent bien.
Et voilà.
Jackson, va à table.
Eh oh.
Jackson.
Ouais, ça va, j'ai entendu.
Eh bien, en tout cas, je suis très heureuse que notre famille soit réunie.
Merci d'avoir préparé ce festin.
C'est rien que du local. Garantie sans OGM et bio.
À travers de nombreux films, vous avez montré des visages très, très différents. Il y a le Seigneur des Agneaux. Il y a le Seigneur des Anneaux, bien
c'est
évidemment.
Moi, des Agneaux. C'est moi.
Loin des hommes, Two Faces of January, les promesses de l'ombre. Et là, votre réalisateur, Matt Ross, dit que physiquement et moralement, vous étiez Ben. Alors, est-ce que c'était le moment pour vous de revenir à un rôle qui vous semblait plus proche de vous, de ce que vous êtes dans la vie? Et est-ce que du coup, c'était un rôle pour lequel vous n'avez même pas eu besoin de vous préparer?
Bon, il y a une chose, dans des autres films, j'ai fait des choses ou j'ai monté des choses qu'on peut voir, certains éléments du personnage de Ben, c'est vrai. Mais, je veux dire, l'erreur, mais pour moi, je suis flatté que si les spectateurs pensent « Ah, c'est lui, il peut faire tout ça ». Là, je sais que j'ai fait mon travail. Si dans certains films, on voit que je fais quelque chose Et on croit que c'est moi qui fais ça normalement, que je suis capable de faire tout ça. J'ai fait mon travail.
Ouais,
non, j'aime ça. J'aime pas ça.
Aller tuer les cerfs avec un couteau, non?
Non, il y a des choses que j'ai appris à faire, beaucoup de choses. Et le voyage psychologique de Ben, par exemple, sa façon de parler avec ses six enfants, le travail de gestes, point de vue. Voilà, le voyage psychologique du personnage, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Quand j'ai lu le scénario, j'ai pensé, bon, il y a certaines choses que je connais. Je vais être sûrement à l'aise dans la forêt, parce que j'aime ça. À part de ça, il y a plein de choses que je dois apprendre. Et chaque fois que je fais un personnage, que je prépare un personnage, je pense que mon devoir comme comédien... C'est de non seulement comprendre et accepter le point de vue du personnage, mais de tomber un peu amoureux du personnage. Et je le fais toujours et j'aime le procès d'y arriver. Et j'ai fait la même chose avec Ben. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais il y a certaines choses où je suis d'accord. Avec lui. La base de la famille, je ne trouve pas très radicale. La base, les liens qui font cette famille sont l'honnêteté, la compassion, la curiosité et le respect mutuel. Je trouve ça pas assez radical, c'est normal.
Vous dites que ce n'est pas un film politique, mais c'est quand même un film qui porte un certain regard sur le monde, ou en tout cas une certaine réflexion, parce que là vous avez raison, c'est que le film ne tranche pas sur la bonne manière de vivre, et ni sur la bonne manière de penser, qui est incarnée tour à tour par ce père plein de certitudes, sur son altérité, sa singularité, et de l'autre côté par cette belle famille qui est aussi assez prompte au départ à donner des leçons de morale, des leçons de... Ouais. De bien vivre et d'éducation.
C'est vrai, il y a une certaine arrogance là. Mm-hmm. On voit ça.
Ouais. Des deux côtés finalement. C'est pour ça que c'est un peu le choc aussi quand ils se rencontrent. Donc vous dites pas un film politique parce que ça ne tranche pas, et que c'est pas un film idéologique, mais c'est quand même un film qui quelque part correspond aussi à ce que peut être votre engagement à la vie. Alors je sais pas si on peut en parler. Je crois que vous êtes assez ouvert là-dessus. Avec d'autres, vous avez récemment appelé à signer une pétition pour appeler le président Barack Obama à pardonner à Edward Snowden.
Ouais.
C'est une pétition qui a largement circulé. Il est toujours exilé en Russie actuellement. Et puis surtout, il risque des années de prison aux États-Unis s'il rentre pour l'instant. Donc ça, c'est un engagement qui était important pour vous.
Oui.
Pour
ça vient avec ce qu'on a parlé de Chomsky, de Camus, de Howard Zinn, les idées. Dans ce film aussi, d'oser à nommer les choses, de ne pas avoir peur de parler librement de tout. Je trouve ça la meilleure façon de vivre, de rester ouvert, de discuter. Il se peut qu'on n'ait pas d'accord, mais c'est mieux de se communiquer.
Vous aviez aussi à Cannes ouvertement pris position pour le candidat Sanders à la prochaine élection présidentielle avec un t-shirt que vous arboriez avec le nom du candidat démocrate. Vous avez raconté depuis que vous refusiez coûte que coûte de suivre même sa consigne à lui de voter en faveur d'Hillary Clinton.
Je comprends qu'il l'a fait, pourquoi il l'a fait, mais c'est dommage.
Il n'aurait pas dû.
À mon avis, non. C'était une belle opportunité pour construire un troisième parti politique formidable. Il ne voulait pas.
Alors du coup, vous soutiendrez quand même pas Hillary Clinton et vous avez plutôt choisi d'aller du côté de l'écologiste.
Je trouve terrible que l'un de ces personnages si belliqueux et malhonnêtes va commander... la première puissance militaire du monde.
Vous préférez Donald Trump ?
Les deux.
C'est la même chose.
Dans la politique extérieure, ils sont dangereux, tous les deux. Tous les deux. C'est terrible, le choix. Et oui, je vais voter à Jill Stein, des Verts. Il y a beaucoup du monde aux États-Unis, surtout la jeunesse, qui ne veut pas continuer de la même façon, qui ne veut pas attendre des autres options, troisième parti politique par exemple, qui vont former, qui vont changer les choses d'une façon, je crois, long terme, d'une façon pratique. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ça ne va pas changer le 8 novembre.
Ce sera pour nos enfants.
Oui.
Voilà, on en revient au film.
Ouais.
Merci beaucoup, Vigo Mortensen.
Merci.
Merci
à toi.
She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky.
De la bande originale de Captain Fantastic, un film de Matt Ross avec Viggo Mortensen et six enfants géniaux qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui connaissent par cœur tous les amendements de la Constitution américaine. Le film était à Cannes dans la sélection Un Certain Regard et il est maintenant partout en France dans les salles. À suivre le journal de Bruno Cadenne, puis le second invité de la Grande Table, le philosophe François Julien, pour qui il n'y a pas d'identité culturelle. Alors pourquoi ne parle-t-on que de ça ? Je vous retrouve à 12h55.